Vous écoutez France Culture.
Le journal était signé Anne-Laure Chouin. Elle sera de retour à 9h.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue dans les coulisses de l'information. Tout ce week-end, France Culture se met intégralement à l'heure de la toile Internet. Tout au long de nos programmes, nous allons nous interroger sur les questions, les enjeux que soulève l'ère numérique. Et pour ce 120e numéro du Secret des Sources sur France Culture et sur franceculture.fr, nous vous proposons donc un hors-série, la diffusion d'un débat public enregistré lors des 50 ans de la chaîne au Palais de Tokyo avec, vous l'entendrez, pas mal d'ambiance à l'arrière-plan par moment. C'était la fête au Palais de Tokyo en septembre. Débat qui est donc consacré aux menaces qu'Internet fait peser sur l'information.
J'ai le plaisir d'accueillir trois personnes. La première, c'est, et elle nous arrive tout droit de Tunis, et je la remercie vraiment d'être venue spécialement pour cette occasion de Tunisie. C'est Lina Benmeni, qui est blogueuse, l'une des blogueuses emblématiques des printemps arabes, dont certains d'entre vous connaissent peut-être le blog Tunisian Girl. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Laurent Geoffrin, le directeur du Nouvel Observateur. Bonjour, bienvenue. Pierre Aski, cofondateur de Rue 89. Alors ensemble, on va essayer effectivement d'échanger, mais aussi d'échanger avec vous, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un micro à chef qui se balade quelque part et qui va vous permettre régulièrement de poser des questions. Et on va questionner, on va dire, l'impact qu'ont les nouvelles technologies, qu'a Internet, qu'ont les nouveaux médias sur la pratique du journalisme. Et on a utilisé ça, histoire de provoquer un petit peu, est-ce qu'Internet et les nouveaux médias vont tuer le journalisme ? Alors on va aborder ça par plein d'aspects et on va essayer de dépasser, on va dire, le romantisme qui a accompagné la naissance des nouveaux médias et le fait qu'on a pu croire au début que tout cela allait être un monde merveilleux d'Alice au Pays des Merveilles. Et je vais essayer, moi, de jouer le rôle de celui qui trouve que, décidément, c'est un monde épouvantable et terrifiant. On va commencer par écouter un bref élément sonore, très très bref. C'est quelqu'un dont vous avez sans doute entendu parler ces derniers mois. C'est Edward Snowden.
My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. NSA and the intelligence community in general is focused on getting intelligence wherever it can, by any means possible, that it believes on the grounds of sort of a self-certification that they serve the national interest.
Voilà, donc il se présente, c'était sur le site du Guardian quand l'affaire a commencé à éclater, l'affaire des révélations sur la NSA et le rôle des agences américaines d'espionnage, et le fait, il l'expliquait là dans ce petit sonore en anglais, que en quelque sorte ils définissent par eux-mêmes ce qu'ils estiment être de l'ordre de la sécurité nationale. Alors il y a deux façons de regarder, moi j'ai envie de dire, cette affaire Snowden et cette affaire de Prism et de la NSA. La première, c'est de se dire, évidemment, c'est formidable, la presse a joué un rôle extraordinaire avec la complicité d'un lanceur d'alerte, comme il est convenu de les appeler, et elle a révélé tout ça. Et en même temps, il y a une autre façon de regarder cette histoire, c'est de se dire que on est vraiment mini rikiki et particulièrement impuissant par rapport à l'extrême puissance des organismes d'espionnage aujourd'hui, avec la complicité des géants d'Internet et des nouveaux médias que sont les Google, Facebook et Microsoft. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que finalement le journaliste, dans sa quête d'information et de vérité, n'est pas appelé à être totalement désarmé à terme face à la puissance de ces monstres ? Laurent Geoffrin.
Non, je ne crois pas qu'on soit désarmé. C'est que la puissance de l'informatique et numérique permet aux États maintenant d'espionner toutes sortes de gens. Mais ça a été dénoncé et on en fait des articles à longueur de colonne. On n'est pas du tout impuissant. C'est une question un peu différente du thème d'origine, parce que c'est une question de contrôle démocratique sur les pratiques des services secrets. Et c'est une chose sur laquelle à la fois on débat, sur laquelle il y a eu des révélations, des enquêtes. Et on a alerté, enfin tout le monde, d'abord Snowden lui-même, et puis ensuite tout le réseau d'information, ont alerté les citoyens pour leur dire, regardez ce qu'ils font. Après, c'est pas la presse. La presse, elle ne peut pas faire plus. Enfin, la presse Internet ou papier, elle ne peut pas faire plus. Après, c'est les parlements, c'est les citoyens, c'est les associations, c'est les ONG qui peuvent se saisir de cette affaire et protester contre les pratiques scandaleuses des grands États.
Sauf que ces moyens techniques modernes permettent, entre autres choses, d'espionner aussi les journalistes. Et on l'a vu, par exemple, aux États-Unis très récemment, à travers ces espionnages quand même assez systématisés de journalistes de la société de presse par l'administration Obama. Pierre Aski.
Est-ce que c'est vraiment nouveau? Moi, j'ai souvenir d'une histoire ancienne, c'est les plombiers du canard. Je veux dire, le fait que les polices ou les États veuillent espionner les journalistes, c'est quand même pas tout à fait nouveau. Je pense que ça date de l'invention du journalisme, de l'invention des services de police. Simplement, aujourd'hui, la dimension qui est nouvelle, c'est que ça s'est fait avec la complicité d'entreprises dans lesquelles nous nous mettons pieds et poings liés. C'est là qu'il y a un élément nouveau, c'est que NSA n'est pas allé mettre clandestinement des micros chez Google, Apple, etc. pour nous espionner. Elle a juste envoyé une requête à ces groupes et à l'exception de Twitter, je crois, tous les autres ont accepté sans rechigner. Et c'est là qu'il y a un problème et que d'une certaine manière, cette affaire est une très bonne piqûre de réveil pour les citoyens. C'est que nous nous sommes laissés un peu bercer par l'illusion de la modernité, de la technologie, du romantisme de personnages comme Steve Jobs, etc., dont on fait des films, alors que leurs entreprises sont devenues aujourd'hui des multinationales qui sont cotées en bourse et qui ont besoin de rentabilité, etc., et qui, à ce prix, ont, je pense, trahi l'idéal que leurs fondateurs avaient lorsqu'ils travaillaient dans des garages et, dans la marginalité underground. Aujourd'hui, on a affaire à des entreprises qui fonctionnent à l'échelle mondiale. Yahoo, il y a quelques années, j'étais correspondant de Libé en Chine, Yahoo a vendu des dissidents chinois au pouvoir de Pékin qui utilisaient des messageries mail Yahoo et Yahoo a donné aux autorités chinoises les détails des comptes qui ont permis de condamner en particulier un journaliste qui s'appelle Shetao à 10 ans de prison. Donc on est très loin d'une vision un peu romantique et utopique. On est dans le monde réel dans lequel la police espionne les journalistes ou les citoyens comme elle l'a toujours fait et comme elle le fera sans doute toujours. Mais l'élément nouveau dans lequel il faut qu'on réalise qu'on est entré, c'est que les grandes entreprises qui contrôlent aujourd'hui tout cet univers, pour des raisons essentiellement commerciales et économiques, sont complices de ce système.
Dans un pays qui connaît les soubresauts démocratiques que l'on sait, la Tunisie, Lina Benmeni, comment est-ce que justement les blogueurs et les journalistes voient les nouveaux médias ? C'est-à-dire passer, on va dire, encore une fois, le romantisme, on évoquait ce mot-là tout à l'heure, le romantisme révolutionnaire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la sensation que ces nouveaux médias et ces nouvelles technologies sont un atout pour la liberté ou au contraire un danger parce que facilitant, on va dire, la surveillance de la part de l'État?
Je dirais que les nouveaux médias et surtout Internet est une arme à double tranchant. C'est sûr, ça nous a beaucoup aidé pendant les événements qui ont conduit à la fuite du dictateur Ben Ali de la Tunisie. Mais bon, suite à ça, tout le monde a compris la puissance de ces outils-là que sont Facebook, Twitter, et ont voulu les exploiter à leur manière. Les dirigeants des partis politiques, et surtout ceux qui sont au pouvoir, ont recruté des jeunes pour travailler pour leur compte en les payant. Avant, on faisait ça par passion, par amour du pays. On essayait de passer l'information et de dire la vérité quand les médias étaient sous le contrôle du régime. Maintenant, c'est différent. Des jeunes et des personnes sont payées pour faire passer la propagande des partis politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux de l'opposition. Et aussi, il y a l'espionnage et il y a beaucoup de campagnes de diffamation, il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de menaces.
Ça veut dire que quelqu'un comme vous, qui finalement est une enfant d'Internet, à un moment donné, vous vous méfiez d'Internet, en fait.
Moi, j'assume tout ce que je fais et je dis, d'ailleurs, je suis sur une liste de liquidation carrément en Tunisie à cause de ça. Mais bon, je continue à agir de la même manière qu'avant. Je cherche à m'exprimer librement, à dire la vérité. Mais ça devient fatigant et ça devient même effrayant, parce que voilà, personnellement, chaque matin en me réveillant, je trouve des dizaines de messages d'insultes, de menaces, mais j'ai pas le choix, j'ai choisi de me battre à travers mes mots, à travers ce que j'écris, à travers les reportages que je fais, et je dois supporter tout ça.
On a beaucoup dit, beaucoup écrit, sur, peut-être beaucoup fantasmé, sur le fait que les révolutions arabes, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, avaient été des irrévolutions, enfin des révolutions Internet. C'était un mirage, ça ? C'était un fantasme ? C'était une projection de l'Occident ? C'était quoi ?
Moi, j'ai toujours rejeté cela. J'ai toujours dit que, bon, quand je parle de la Tunisie, bien sûr, que en Tunisie, la révolution, ça n'a pas commencé sur Internet. Ça a commencé sur le terrain avec les personnes qui ont tout de suite commencé à manifester après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid. Les blogueurs, les administrateurs de pages Facebook et tout, au début, n'ont fait que reporter tout cela, mais ça a commencé sur le terrain. J'accepte jamais ce concept de irrévolution ou révolution Internet. Ou...
L'Occident, pour vous, Pierre Aski, Laurent Geoffrin, a fantasmé, a projeté quelque chose sur ces révolutions arabes avec leur dimension Internet, comme ça, souvent présentée comme essentielle.
Alors, je pense que je suis d'accord avec l'analyse que fait Lina sur le fait que cette révolution, elle est née d'abord dans la rue, dans l'acte en particulier de Mohamed Bouazizi, mais qu'Internet a joué un rôle. Et notre illusion, ça a été de croire que, effectivement, on est dans cette illusion dont je parlais tout à l'heure de romantisme, c'est-à-dire de penser que la technologie est nécessairement au service de la liberté. Et je pense que c'est né de ce fantasme initial de ces personnages, Steve Jobs, etc., qui ont pu incarner à un moment cet idéal. Mais la technologie, elle est neutre. Elle est utilisée par les dictateurs lorsqu'ils savent bien l'utiliser, aussi bien que par les gens qui se battent pour la liberté. Et c'est clair, dans des pays qui sont soumis à des régimes autoritaires, c'est plus compliqué chez nous parce qu'on est, dans des contextes différents. Mais effectivement, on a plaqué notre fantasme sur les révolutions arabes parce qu'on a cru aussi naïvement qu'il suffisait de renverser un dictateur pour avoir une démocratie social-démocrate à la suédoise à la place le lendemain. Bon, on sait aujourd'hui, avec 2 ans de recul, et on aurait pu savoir d'ailleurs en regardant notre propre expérience historique,
que ça allait prendre un moment.
Que c'est plus compliqué qu'il y a des soubresauts. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre et dire Internet n'a joué aucun rôle. Internet a été un élément important parce que c'est une révolution du 21e siècle et qu'il y avait des révolutions avant et il y en aura après.
Alors, on va prolonger, on va aller plus loin, bien sûr, avec à la fois la question de l'impact des nouvelles technologies sur la pratique journalistique, parce que ça, je pense que c'est important, et aussi, évidemment, sur la question du modèle économique, parce que ça remet en cause les modèles économiques. Peut-être, déjà, sur ce premier chapitre et ce qu'on a évoqué, est-ce qu'il y a quelques questions parmi vous ? N'hésitez pas, allez-y. Je vois monsieur devant. Hein. Peut-être Mathias va vous apporter un micro. Allez-y, on vous écoute.
Merci. Alors, je voulais poser la question... Assange et Snowden, hein, les deux, et puis le troisième, là, le soldat américain, là, qui aussi...
Manning.
Qui a été condamné, je crois. Comment on explique que dans un pays soi-disant démocratique comme les États-Unis, et l'Angleterre aussi qui retient, enfin qui oblige quand même Assange d'être dans un ambassade où il ne peut pas sortir, comment ça s'explique qu'une des démocraties parlementaires que nous aimons, que nous défendons quand même, comment ils peuvent persécuter des gens comme ça ? Je n'ai pas d'explication, s'il vous plaît, si vous en avez.
Voilà, on dépasse de beaucoup le journalisme. Enfin, ça prolonge ma posture, on va dire, de départ, qui est de dire que les nouvelles technologies permettent, comme jamais dans l'histoire, aux puissants de contrôler, de surveiller, de détenir, etc. Donc c'est quand même un petit peu troublant, non ? Je sais pas, Lina Benveni, allez-y. Comment vous regardez, vous, de chez vous, justement, ces pratiques des pays, entre guillemets, démocratiques par rapport aux, notamment, lanceurs d'alerte donc, qu'évoquait monsieur.
Ouais, vous avez dit démocratique, entre guillemets. Donc,
j'ai mis des guillemets.
Y a jamais
plus que d'autres, en tout cas.
Il n'y a jamais la démocratie parfaite. Toujours, ce sont les intérêts politiques, économiques qui sont la priorité des gouvernements dans les États-Unis. Moi, personnellement, quand je vois la façon dont les États-Unis se comportent par rapport à la situation en Tunisie, je comprends que cette histoire de démocratie, de droits de l'homme, de respect des droits de l'homme n'est que utopiste. La vérité, c'est amer, c'est différent. Donc,
je crois qu'on touche avec cette affaire à la perturbation que provoque Internet, perturbation dans le sens tout à fait factuel du terme, c'est-à-dire que ça bouleverse la manière dont se faisaient les choses. Il s'est passé quelque chose avec Assange en particulier qui a été intéressant, c'est que Assange a d'abord commencé par rendre public lui-même les données dont il avait eu possession. Et puis après, il est passé par les médias, c'est-à-dire que sa pratique a évolué. Et pareil avec Snowden. Snowden a choisi de passer par les médias. Et là, on rejoint notre sujet, c'est-à-dire quel est le rôle du journaliste. Assange a bien compris qu'il avait des centaines de milliers de télégrammes diplomatiques et qu'à un moment, il avait besoin de la validation journalistique et qu'il a fait des accords avec le New York Times, Le Monde, etc., pour avoir cette validation journalistique des informations qui sortaient. Pareil avec Snowden, qui n'a pas mis ça sur Internet sans passer par d'autres filtres. Il est quand même passé par une journaliste américaine et finalement le Guardian, qui a été le vecteur de ces informations. Et je pense que c'est une nouvelle manière de procéder, où il y a une partie de l'univers des médias aujourd'hui qui réagit positivement par rapport à ça, et une partie qui est contre. Aux États-Unis, il y a eu un énorme débat sur Wikileaks, sur les fuites de Wikileaks. Il y a une partie de l'establishment médiatique qui a considéré, ça fait même débat à l'intérieur du New York Times, qu'il ne fallait pas utiliser les informations qui venaient de ce canal-là. Donc on a un élément de perturbation de la manière dont se faisait l'information précédemment, dont, de l'endroit où se situe le journalisme par rapport à ces informations, et qui est très intéressant. Et on n'est qu'au début de cette aventure.
Mais même si on choisit de publier, ça pose d'autres défis sur la pratique journalistique. Par exemple, ça pose le défi du tri, qui est juste colossal à faire sur ces histoires de fichiers. Je veux dire que l'affaire s'appelle Clearstream, qu'elle s'appelle Offshore Leaks, peu importe. Il y a un travail de tri qui est devenu gigantesque. Premier point. Et deuxième point, et ça c'est quand même modifié par les nouveaux médias et l'ère d'Internet, c'est la question de la vitesse. C'est-à-dire qu'on est quand même, le journaliste est placé devant une exigence de rapidité et de vitesse comme jamais auparavant, ce qui peut quand même mécaniquement le conduire à faire des erreurs plus que de coutume, non ?
Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que le débat a évolué. Il y a 5 ans, on était là à se dire « le journalisme va disparaître ». Moi, j'ai participé à 250 débats sur la fin de l'information, la fin du journalisme, le journalisme citoyen va remplacer le journalisme, etc. Aujourd'hui, la question elle-même induit que le journalisme est nécessaire. C'est-à-dire que face aux informations de Wikileaks, face à l'afflux d'informations vraies et ou fausses sur les réseaux sociaux, etc., le journalisme est encore plus nécessaire.
Parce qu'il faut trier.
Pour valider, pour hiérarchiser, pour contextualiser, pour trier.
Laurent Geoffrin.
Sur la question de la vitesse, il faut distinguer deux choses. Il y a la diffusion.
C'est des répétitions pour ce soir, j'imagine. On va essayer de se faire entendre parler.
On va parler encore plus fort.
Voilà, on va parler plus fort. Allez-y.
Oui,
la vitesse.
Je voulais distinguer deux choses. Il y a la vitesse de diffusion qui est fascinante, parce que c'est instantané maintenant. Puis il y a la vitesse de fabrication de la nouvelle. Sur le deuxième point, ça n'a pas changé. Rien n'a changé. C'est-à-dire qu'avant de mettre une information à disposition du public, il y a un temps incompressible. Alors, on pouvait toujours faire de la mauvaise information, ou on aurait pu supposer que Assange et les autres donnent le contenu de ce qu'ils avaient trouvé immédiatement, sans aucun filtre et sans aucun travail. Mais ils ne l'ont pas fait, justement. Ils sont passés par des gens qui ont trié, qui ont travaillé. La vitesse de fabrication d'un article sur Internet, dans une agence de presse... Moi, j'ai commencé dans une agence de presse, Pierre aussi, d'ailleurs, qui s'appelle l'agence France Presse. Il fallait aller très vite. Et il ne fallait pas faire d'erreur. Mais il fallait aller très vite. L'agence France Presse se battait sur 15 secondes. Hein, si vous, si pour les informations importantes.
Mais si j'ose dire, Laurent Geoffrin, excusez-moi de vous interrompre, oui. Mais elle se battait, non pas toute seule, mais elle se battait uniquement contre les autres agences de presse.
Alors, sur oui, ce
alors qu'aujourd'hui, elle se bat contre n'importe quel internaute, d'une certaine
oui,
façon.
Oui, mais c'est pareil. Quand, quand vous êtes à 15 secondes, de toute façon, c'est rapide, hein, 15 secondes. Ça. Et la presse a toujours marché comme ça. Enfin, depuis qu'il y a le télégraphe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut faire les articles très vite. À la radio, c'est encore pire. Quand vous avez un bulletin radio, si ça tombe à moins 5, vous avez 5 minutes. La technologie n'a pas grand-chose à voir.
Ça peut même tomber pendant. Hein,
comment
ça peut même tomber pendant le bulletin. Hein.
Oui, à ce moment-là, vous faites autre chose. Mais enfin, je veux dire par là que la vitesse, le côté immédiat, il existe depuis toujours, pratiquement, dans la presse. Le temps de fabrication, c'est comme les coiffeurs. Vous ne pouvez pas couper les cheveux de quelqu'un correctement plus vite qu'on ne le faisait au Moyen-Âge. C'est impossible. Et pour l'information, c'est pareil. Vous ne pouvez pas aller plus vite. On va le plus vite possible. Parce que si vous allez trop vite, vous écrivez des conneries et vous disparaissez parce que vous n'êtes pas crédible. Donc vous êtes obligé de prendre un certain temps. Et ce temps est incompressible. Donc cette idée de rapidité vaut pour la diffusion. Elle ne vaut pas pour la fabrication. C'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé souvent, enfin longtemps dans un quotidien. Quand vous avez une nouvelle à 5h, à 17h, et il faut qu'à 19h, l'article soit fait. Vous avez 2h.
Alors,
c'est beaucoup trop rapide. C'est trop vite. On va toujours trop vite. Mais si on peut pas non plus parler du 11 septembre, le 13 septembre, ça, c'est pas possible non plus. Il faut en parler le 12 septembre. Donc, vous avez 4 heures pour cet événement colossal.
Et
ça sera toujours comme ça.
Je vais prendre un autre exemple. Je vais continuer d'être le gars qui déteste Internet. Sur les pratiques journalistiques, prenons Twitter, dont on sait que c'est un réseau social aujourd'hui qui est très utilisé et suivi par les journalistes, aussi bien d'ailleurs dans le monde arabe que dans le monde occidental. Les premières études qui commencent à être faites sur de quoi parle-t-on sur Twitter, quels sont les sujets qui sont abordés sur Twitter, montrent qu'il y a une réduction du champ journalistique. C'est-à-dire que c'est finalement très très peu de sujets qui sont évoqués sur Twitter, mais beaucoup avec du retweet, etc., etc. Donc est-ce que, de ce point de vue-là, ça ne conduit pas mécaniquement, sous une illusion de transparence et d'élargissement du cercle, à une réduction, en réalité, du nombre de sujets qu'on traite ? Pierre Aski et puis Lina Menmeni, ça m'intéresse.
Bon, moi, je vais me faire le défenseur de...
On s'est réparti les rôles.
De Twitter. Moi, je crois exactement l'inverse. Je pense que Twitter a ceci de particulier, que c'est le seul endroit où vous avez, avec égalité, de possibilités de parler. Les acteurs de l'information, que ce soit les révolutionnaires du monde arabe, Lady Gaga ou un entraîneur de foot, vous avez les journalistes et vous avez les simples citoyens. Tous trois ont exactement la même possibilité de parler. Après, ils n'ont pas la même caisse de résonance, ils n'ont pas le même nombre de followers, etc. Mais ils peuvent s'exprimer, c'est le seul endroit. C'est pas possible à la télé, c'est pas possible à la radio, c'est pas possible ailleurs. Là, vous avez... Tout le monde est réuni. Après, vous avez une hiérarchie qui se crée à l'intérieur de ce réseau, comme dans tout système social, où vous apprenez à savoir qui est crédible et qui ne l'est pas, qui vous écoutez, qui vous choisissez d'écouter, qui vous choisissez d'ignorer, ou qui vous regardez uniquement parce qu'il vous amuse, ou ça vous amuse de voir la propagande qu'il va donner sur une question politique, ou comment il vend son spectacle, etc. Bref, vous avez à la fois une mise en scène sociale et vous avez beaucoup d'informations qui circulent. Moi, je vous donne comment je travaille. Je suis à peu près 400 comptes lié à la Chine. La Chine m'intéresse énormément, donc je suis à peu près 400 personnes sur la Chine. Des officiels chinois, des dissidents, des journalistes, des économistes, des universitaires américains, australiens ou français. Bref, j'ai un éventail d'opinions, de faits, de liens,
de sources potentielles
sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui fait qu'en 10 minutes le matin, lorsque je regarde mon compte Twitter et ma liste chinoise, je sais exactement tout ce qui se passe dans cet univers. Et franchement, depuis que ça existe, je n'ai jamais rien raté. C'est-à-dire que vous avez une manif de Tibétains à 9h le matin, à 10h, je l'ai sur mon compte Twitter avec une vidéo tournée par un activiste sur place. C'est quand même un changement assez considérable. Après, il se passe quelque chose par rapport à ça. C'est que beaucoup de nos lecteurs nous interpellent, non pas pour savoir ce qui se passe, mais pour avoir la confirmation de ce qui se passe. C'est-à-dire, ils nous disent, voilà, j'ai lu sur Twitter, j'ai lu sur Facebook, j'ai vu une vidéo, etc. Est-ce que c'est vrai ? Et parce qu'ils ont confiance en nous. Donc le phénomène clé, c'est d'arriver à avoir une communauté autour d'un site comme le nôtre, par exemple, dans lequel les gens ont confiance et viennent vers vous pour valider, pour vérifier, pour faire ce tri. Et c'est ça qui est important, c'est que vous avez un espace ouvert, comme il n'en a jamais eu auparavant, dans lequel il y a le meilleur et le pire, on le sait. Et puis, vous avez des lieux d'excellence ou en tout cas de confiance dans lequel les gens vont venir pour vérifier, valider et en savoir plus.
Lina Benmeni, sur cette question-là, donc particulièrement de Twitter, on va dire, élargissement de notre champ d'information ou rétrécissement?
Non, je pense que Twitter a permis l'élargissement de notre champ d'accès à l'information. Comme le disait M. Perasquier, Twitter est ouvert à tout le monde, donc on peut suivre tout le monde sans limite. C'est à nous de choisir qui suivre et que suivre. Personnellement, j'utilise Twitter pour avoir l'information. Je suis différents médias, différents activistes et ça me permet de tout suivre presque à temps réel. C'est le live presque. C'est très important comme outil d'information. Je vais faire une petite comparaison entre Twitter et Facebook par rapport à la Tunisie. En Tunisie, Facebook est plus populaire que Twitter, mais sur Facebook, tout le monde cherche à faire le buzz, même avec des intox. Facebook en Tunisie, c'est plus crédible, mais quand il s'agit de Twitter, ce sont les médias, ce sont les activistes qui vérifient toutes les informations. Même s'il y a une intox, elle est repérée rapidement sur Twitter et corrigée. Et ça aide beaucoup.
Je voudrais qu'on prenne un autre exemple, parce que je voudrais aussi qu'on parle de la Syrie, je le disais. On est donc, sinon inondé, du moins on reçoit beaucoup de documents qui arrivent, de documents visuels, de vidéos, d'images qui nous arrivent tournées par des amateurs ou semi-amateurs, parce qu'il y a quand même une vraie professionnalisation progressive de ces gens-là sur le terrain, et je pense particulièrement à la Syrie. Reste que c'est souvent difficile à vérifier, justement. Mais que dans le même temps, comme la presse classique, elle trouve qu'envoyer des reporters en Syrie, c'est dangereux et ça coûte cher. Est-ce que ça ne conduit pas le journalisme classique à démissionner? C'est-à-dire que comme on reçoit ces images, bon, ma foi, ça permet d'alimenter la bécane. Et puis, comme nous, de l'autre côté, on trouve que ça coûte cher et c'est dangereux d'y envoyer des reporters.
Je peux vous répondre sur le mot démissionner, qui est un peu désagréable. Parce que pourquoi je n'envoie pas des gens en Syrie? J'ai envie qu'ils se fassent tuer. Ce n'est pas une démission.
Mais les cyber-reporters syriens se font tuer pendant ce temps, pour nous fournir des images.
Mais c'est des gens qui habitent sur place.
Accessoirement, d'ailleurs, on a évidemment une pensée pour nos confrères qui sont retenus en otage. Non, il y a un tout à l'heure à l'hôtel.
Je parle de mon expérience. J'avais envoyé un garçon en Yougoslavie, il a été tué. C'est une expérience que vous n'avez pas envie de recommencer. Et donc, j'envoie tout le temps des gens en reportage, dans les endroits dangereux. Didier François, quand il a... Pas cette fois-ci, parce que là, il a été enlevé, mais avant... À Gaza, il avait été victime d'une rafale de mitraillettes. C'était moi le rédacteur en chef. Donc, c'est moi qui l'avais envoyé là-bas. Donc c'est pas une démission que d'essayer de ménager à ses propres journalistes.
Mais c'était des pas tout à fait ma question, Laurent Geoffrin, si suicidaire. Je me permets.
Oui, mais c'est ici.
Bien sûr que
on n'envoie pas les gens en Syrie parce qu'on démissionne.
Bien sûr que le directeur de rédaction et de publication se pose la question de la sécurité de ses reporters. Enfin,
ça paraît élémentaire.
Et,
oui.
Évident. Reste qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où, comme il y a des images qui nous arrivent, j'ai envie de dire gratuitement, la tentation est d'autant plus forte quand on est confronté à des soucis de financement de faire des économies avec ça.
Je pense que c'est un mauvais procès parce que la question n'est pas celle du financement. La question du financement, elle pèse sur la couverture internationale. Aujourd'hui, c'est clair, il y a moins de bureaux, il y a moins d'envoyés spéciaux, etc. Dans le cas d'un conflit comme la Syrie, c'est pas parce qu'on a des vidéos d'amateurs qu'on n'envoie personne. La question du risque et la question... des enlèvements fait que on peut pas être un rédacteur en chef responsable et se dire oui allez-y on y va. Il y a 17 journalistes en otage en Syrie en ce moment, 17, et il y a un nombre de morts que je ne connais pas dont la plupart sont d'ailleurs des Syriens. C'est un théâtre pour les journalistes aujourd'hui qui est extrêmement risqué. La question des vidéos, en plus, elle ne remplace pas le travail d'un journaliste. L'année dernière, je ne sais pas si vous aviez lu les reportages de Florence Omna dans Le Monde à Alep, il n'y a pas une vidéo d'amateur qui va remplacer la plume de Florence Omna pour rendre une situation comme celle-là. Donc, ne fantasmons pas sur les raisons. La question, c'est comment, dans une situation comme la Syrie, on peut continuer à faire son travail de journaliste avec les moyens du bord, c'est-à-dire à la fois ces vidéos amateurs qui nous parviennent, qu'il faut vérifier, qu'il faut valider, avec les outils qui sont à notre disposition, comme Skype, comme les réseaux sociaux, etc. Il y avait l'autre jour, après l'attaque chimique d'Al Ghouta à côté de Damas, il y a eu un article extraordinaire dans le New York Times, dont je n'ai pas vu l'équivalent dans la presse française, parce que ça demande un travail de lien et de réseau que peut-être peu de journalistes sont capables de faire. Mais le correspondant du New York Times à Beyrouth, qui a visiblement une très bonne connaissance du terrain, qui a énormément de liens avec les activistes sur place, a fait un travail d'essayer de reconstituer les événements de cette journée en interviewant par Skype et à travers les réseaux sociaux un certain nombre de personnes qu'il connaît et qui sont réellement sur le terrain, en confrontant ça à ce qui était sorti par les réseaux sociaux, etc. Et il a fait un travail de Beyrouth et non pas de l'endroit même, parce qu'il ne peut pas y aller et je pense que sa rédaction le lui interdirait, mais il est arrivé à un résultat qui est formidable et je ne pense pas que ce soit une question d'économie.
Lina Benmeni, là-dessus, moi j'aimerais votre point de vue, parce que vous êtes, si j'ose dire, de l'autre côté de la barrière d'une certaine façon. Est-ce que vous avez eu parfois cette sensation que le journaliste professionnel, on va dire, baissait un peu les bras et s'en remettait au travail des amateurs et des reporters citoyens sur le terrain, y compris en Tunisie?
Quand il s'agit de la Tunisie, avant le départ de Ben Ali, c'était le cas. Il n'y avait pas de journaliste qui osait montrer la vérité des choses. Et puis, les journalistes n'étaient pas libres de le faire. Et ils ne cherchaient même pas à le faire, il faut dire. Je parle des journalistes tunisiens. Maintenant, après le départ de Ben Ali, ça change. On a un grand nombre de journalistes qui se déplacent, qui vont reporter ce qui se passe pendant les manifestations et tout ça. Ils se font tabasser, ils se font arrêter, ils se font agresser. Ça change, on ne parle pas du même paysage médiatique. Maintenant, je sens que les journalistes tunisiens ont l'envie de se rattraper par rapport au passé et se donnent à fond dans leur métier. Ça change, c'est différent.
Je pense que ce qui a changé fondamentalement au cours de la dernière décennie, c'est que les journalistes ont perdu le monopole de la parole. Et ça change tout. Quand on parle d'Internet, moi je pense qu'il ne faut pas parler de révolution technologique. Le plus important dans Internet, ce n'est pas la technologie, c'est le fait que tout le monde prend la parole, qu'on soit journaliste ou qu'on ne soit pas journaliste. Alors ça a donné l'illusion à un moment, comme le disait Laurent tout à l'heure, que tout le monde pouvait devenir journaliste. Et je pense qu'on est revenu à quelque chose d'un peu plus raisonnable, qui est que le travail du journaliste, c'est un travail spécifique qui répond à des critères à la fois professionnels et théoriquement déontologiques. Mais ça n'empêche qu'on vit maintenant dans un univers où tout le monde prend la parole. Et ça change énormément de choses, parce que les journalistes ont cru à un moment qu'ils allaient disparaître. Moi, j'ai un copain qui me disait « on est la sidérurgie lorraine du 21e siècle ». Je pense que c'est faux. Et je pense que le journalisme est au début d'une véritable renaissance par rapport justement à l'utilisation des nouvelles technologies et par rapport à la création de nouveaux rapports avec le public. Parce que le public est acteur aujourd'hui. Il y a cette phrase extraordinaire aux États-Unis qui dit « Lorsque quelqu'un achète une télévision, c'est un consommateur d'images supplémentaires qui vient sur le marché. Lorsque quelqu'un achète un ordinateur, un smartphone ou une tablette, c'est à la fois un consommateur d'informations, d'images, etc., mais c'est aussi un producteur potentiel. » Non pas forcément d'information au sens journalistique du terme, mais d'information au sens premier du terme. Ça change notre métier, ça change aussi notre place dans l'univers, et aussi, ce qui est très important, je pense, par rapport à l'évolution du journalisme, ça rend humble.
Alors, l'une des évolutions aussi, vous évoquiez le public, l'auditeur, le lecteur, etc., c'est que à l'ère d'Internet, ils s'habituent quand même à avoir, je vais faire vite, mais de l'info gratuite. Voilà, il clique et puis grosso modo, il a de l'info gratuite. Et alors ça, forcément, quand même, ça pose un souci majeur pour les modèles économiques de la presse. Enfin, c'est des sujets que vous connaissez bien et l'un et l'autre, parce que comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui forcément coûte de l'argent, alors que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui maintenant s'habitue à avoir de l'info gratuite. Comment on fait avec ça? C'est quand même une créature du cercle à laquelle vous êtes confronté, j'ai envie de dire, chaque jour, là. Laurent Geoffrin, allez-y, oui.
Oui, je voudrais corriger la prémisse du raisonnement, c'est que c'est pas la première fois que l'info est gratuite. La télévision, l'info à la télé, c'est gratuit. L'info à la radio, c'est gratuit. Pour le consommateur.
Elle est payée par la redevance. Nous payons
oui,
donc pour
l'information. Ma précision vise à montrer qu'on pensait, nous, qu'en mettant l'info gratuitement, quelqu'un d'autre allait payer. Forcément. Autrement, évidemment, ça n'existe pas. Donc on pensait qu'il y aurait un marché publicitaire suffisant. C'est au début des années 2000, hein. On pensait que le marché publicitaire basculerait progressivement sur Internet et que donc il y aurait une masse comme pour la radio, c'est-à-dire qu'on pourrait vivre des annonces qu'on publierait sous la forme de bannières ou d'opérations interactives ou de tout ce qu'on veut, qui aurait un caractère publicitaire. Et puis au bout d'un certain temps, c'est pas perdu hein, du tout, hein, mais il n'y en a pas assez. Quoi. Il y en a plus qu'avant, ça progresse, mais on n'est pas arrivé à la masse critique suffisante. Une des raisons étant que les géants du net, comme Google, comme Yahoo, évidemment, absorbent une très grande part de ce marché publicitaire. Et donc le nôtre croît beaucoup moins vite qu'on ce qu'on pouvait espérer. Mais bon, peut-être que ça va changer et que le marché publicitaire sur Internet va progresser de manière spectaculaire. Donc après, c'est posé une deuxième question. Est-ce qu'on peut imaginer des modèles où on fait payer les consommateurs?
Plutôt en développement. Enfin, je veux dire, le New York Times,
pour l'instant, il y en a très peu dans le monde.
En France, vos confrères de l'Express, je crois, vont plus ou moins y passer. Là, enfin, pas le Nouvel Obs pour l'instant, jusqu'à présent. Mais enfin, c'est quand même un débat qui agite beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais c'est un débat légitime, bien sûr. Mais la transition est difficile. Le New York Times, apparemment, ce qu'ils disent, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont un système de meter, comme on dit, de compteur. C'est comme vous savez, dans les bars, on vous donne la bouteille au compteur. Et donc là, vous en prenez pour 10 articles gratuitement, puis le 11e, au 11e, on vous dit, abonnez-vous pour pas cher, puis après, ça, le tarif monte. Ça a l'air de marcher. Ils ont, disent-ils, 750 000 abonnés purement Internet. Si ce système se généralise, peut-être que c'est ce modèle qui va finir par l'emporter. Mais on ne le sait pas encore. Bon, en France, il y a eu deux expériences. Il y a celle de Rue 89 qui est gratuite et il y a celle de Mediapart qui est payant. L'audience n'a rien à voir entre les deux. Hein. Eux, ils ont une audience beaucoup plus importante.
Parce que c'est gratuit.
Parce que c'est bon, d'abord. Deuxièmement, parce que c'est gratuit. Oui, non, parce que, il ne suffit pas d'être gratuit pour qu'on vous regarde. Hein. Ça se saurait. Mediapart, eux, ils arrivent, si j'ai bien compris, je ne connais pas leur compte de l'intérieur, mais ils équilibrent leur compte. Et quand c'est gratuit, c'est plus difficile.
Pierre Aski, puis un mot avec Lina Benmeni, et puis peut-être à nouveau la salle.
Il faut quand même se souvenir que le modèle économique de la presse, tel qu'on l'a connu pendant plusieurs décennies, il a mis 30 ans à se stabiliser au démarrage, c'est-à-dire cet équilibre entre les petites annonces, la publicité et la vente, le prix de vente. Ça a mis 30 ans avant de se fixer. Là, on est face au même type de révolution, c'est-à-dire un bouleversement complet de la technologie, de la manière de s'informer, de distribuer l'information, etc. Et on a totalement sous-estimé une chose. Au début, tout le monde disait, mais regardez, lorsque la radio est apparue, elle n'a pas tué la presse écrite. Lorsque la télévision est apparue, elle n'a pas tué la radio. Donc, Internet, ça va se rajouter au reste et ça ne va pas enlever. Et donc, c'est pour ça que les journaux ont mis leur contenu gratuitement en disant on gagne notre vie avec le journal papier ou la radio, etc. Et on a une vitrine sur le numérique. C'est pas ça qui se passe. C'est que le numérique est un média global. C'est le média sur lequel vous avez l'écrit, le son, l'image fixe ou animée. Et qu'on voit bien aujourd'hui que TF1 est en train de souffrir pour les mêmes raisons que Libération est moribond. Voilà, on est dans un bouleversement absolument considérable. Et penser qu'en quelques années, on n'a pas trouvé le modèle économique, ce n'est pas extravagant. Pour être très franc, quand on s'est lancé en 2007, on est parti, nous, on était les premiers donc, à faire un média 100% Internet. On est parti sur une intuition journalistique. On s'est dit, c'est là que ça va se passer. Et il faut expérimenter de nouvelles formes de faire du journalisme. Et on s'est dit, naïvement, je le reconnais, si on fait la preuve de notre modèle journalistique, le modèle économique suivra. Bon, il n'a pas suivi parce qu'entre-temps, on a eu deux récessions et une économie aujourd'hui qui ne, voilà, qui n'est pas florissante. Et comme on avait choisi un modèle publicitaire, on en paye les conséquences. Mais je pense qu'on est au début, quelques années, ce n'est pas grand-chose, d'une histoire qui n'a pas fini de nous surprendre. Quand on s'est lancé en 2007, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Tout ça, ce sont des événements majeurs qui sont venus, année après année, complètement modifier le paysage.
Un mot, Lina Benmini, sur la Tunisie par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des embryons de sites d'information 100% Internet? Et question, j'allais dire, annexe, en tout cas liée, quelle est l'attitude des blogueurs comme vous par rapport à cette question-là? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, je peux continuer à être uniquement sur un blog, etc., ou est-ce que je cherche à devenir journaliste professionnel? Je sais que certains de vos camarades se posent cette question. Comment vous positionnez par rapport à ça?
Ben, je dirais que, bon, après le départ de Ben Ali, il y a eu une floraison dans le secteur du journalisme en général et le journalisme électronique aussi. Donc, il y a beaucoup de nouveaux journaux en papier et électronique. Et je pense que cela est lié à la connexion Internet. Je dirais que les journaux en papier n'ont pas perdu leur place en Tunisie parce que voilà, on n'est pas tous connectés à Internet, les gens sont curieux, ils continuent à chercher leurs informations dans les journaux en papier. Et puis en ce qui concerne les journaux électroniques, oui, beaucoup de blogueurs ont choisi de se transformer en journaliste professionnel, d'écrire sur ces journaux électroniques. Personnellement, je continue à être blogueuse, je ne suis pas journaliste dans un site électronique. J'ai un autre boulot et le blogging et dire la vérité, critiquer la situation en Tunisie, c'est une passion et c'est un devoir pour moi. Je ne cherche pas à être journaliste professionnelle.
J'ai une dernière question parce qu'on va conclure, mais est-ce que par le biais des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, on ne voit pas apparaître aussi des marques, entre guillemets, hein, j'en mets vraiment des guillemets, des marques de journalistes, c'est-à-dire d'individus journalistes, au détriment des marques médias. Par exemple, on va rester chez vous, Laurent Geoffrin, si on prend Mélissa Bounoua qui gère le plus de Nouvel Obs, je crois, elle a, je dis ça de mémoire, 250 000 ou 260 000 abonnés sur Twitter. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que les médias existent encore? Est-ce que ce n'est pas plus des marques journalistes, des individus? C'est-à-dire, bon, moi, je vais suivre Pierre Aski parce que je sais que Pierre Aski est bien informé sur la Chine, donc toc, je le suis. Et ça m'est plus utile que de suivre un journal. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce n'est pas une des conséquences possibles aussi de l'évolution technologique?
Non, je ne crois pas, parce qu'il y a des journalistes vedettes, il y en a eu dans le passé qui étaient mondialement connus et ils n'ont pas nui à leur propre journal, au contraire. Plus les journalistes du journal sont connus, plus ça nous profite. Les journaux vivent plus longtemps que les journalistes, en moyenne.
En moyenne.
Oui. Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Quand Raymond Aron a quitté l'Express, je crois, l'Express n'a pas perdu un lecteur.
Alors,
il se passe quand même quelque chose. Je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui, effectivement, des journalistes qui sont devenus des marques. Je prends un exemple que nous connaissons, Jean-Dominique Mercher, qui était le spécialiste de la défense à Libération, qui avait un blog extrêmement suivi par les militaires qui n'ont pas droit à la parole, donc ils vont commenter de manière anonyme sur le blog de Jean-Dominique Mercher. Jean-Dominique Mercher a quitté Libération, il est allé à Marianne. Il a emmené son blog avec lui. Là, il vient de passer à l'Opinion. Lorsqu'il est arrivé sur le site de l'Opinion, qui était naissant et qui était un peu minuscule, le site a augmenté son trafic d'un tiers. C'est-à-dire que l'arrivée d'un journaliste a représenté un tiers de plus de trafic pour le site parce qu'il a une communauté de gens qui le suivent, qui reconnaissent sa compétence sur son sujet et qui le suivent quel que soit l'endroit où il va. Alors après, ce n'est pas valable pour tous les journalistes et ça ne signifie pas pour autant que les marques de presse disparaissent. Mais il y a un phénomène qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on est confronté aujourd'hui à deux types de lecteurs très différents qui coexistent sur nos plateformes. Ceux qui viennent parce qu'ils apprécient notre titre, ils se réveillent le matin en disant « je vais regarder ce que dit Rue 89 aujourd'hui ». Et puis l'autre partie, chez nous c'est à peu près 50-50, mais l'autre partie ce sont des gens qui suivent des liens, qui vont sur Twitter, qui vont sur Facebook, qui vont sur Google, etc. Et, ou qui reçoivent par mail des gens qui leur disent, des gens qu'ils ont choisis, des gens en qui ils ont confiance, qui leur disent « va lire cet article ». Il va t'intéresser, il va te faire rire, c'est ce que tu cherches, etc. Et cette manière de s'informer, c'est-à-dire que ce ne sont pas les gens qui vont vers l'information, c'est l'information qui va vers eux, c'est une bascule complète. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le plus beau site du monde, si les gens ne savent pas qu'il existe ou si vous n'êtes pas dans cette circulation de liens, vous n'existez pas. Il y a tous les jours des milliards de liens qui sont envoyés par des individus à 10 personnes, à 100 personnes, à 1000 personnes, dans toutes les langues et dans tous les pays du monde. Et des gens cliquent sur ces liens parce qu'ils ont confiance dans l'émetteur de ce message. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est la nouvelle donne. Vous avez une partie du public qui est à l'ancienne, c'est-à-dire fidèle à un titre, il se reconnaît dans ce titre, il a confiance, etc. Et une partie qui est volage, qui cherche l'information et non pas le titre.
Vous, Lina Benveni, à titre personnel, vous, par exemple, vous faites confiance d'abord à des individus en tant que source, parce que ce sont eux, ils sont fiables individuellement, ou à des médias ?
Les deux. Les médias et les personnes. Bon, avant, c'était plutôt des personnes, mais aujourd'hui, il y a plusieurs médias auxquels j'ai confiance et que je suis plus que je ne suis des personnes même. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, les journalistes essayent d'améliorer leur travail, essayent de se rattraper. Et voilà, je suis les médias sur Facebook. Il y a beaucoup d'intox, même, venant même de personnes en qui j'avais confiance auparavant. Auparavant, il y avait un certain respect d'une déontologie entre les blogueurs. On vérifiait nos informations, on croisait nos sources comme le font les journalistes. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche le buzz. Donc, il y a des rumeurs, des intox. Je préfère me diriger vers un média professionnel ou au travail des journalistes professionnels.
C'est plus fiable aujourd'hui pour vous ?
Oui, c'est plus fiable pour moi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois, Laurent Geoffrin, Pierre Aski, Lina Benveni. Un grand merci vraiment à Lina Benveni d'être venue de Tunis. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci.
Voilà ce débat enregistré en public lors des 50 ans de France Culture au Palais de Tokyo en septembre dernier. Dans 50 ans, Internet aura-t-il tué l'information ? Débats et questions à commenter comme toujours, à réécouter, à podcaster sur le site du Secret des Sources sur franceculture.fr. Merci à Mathias Mégy et Vincent Abouchard qui nous ont aidés à préparer ce numéro du Secret. Et tout au long de ce week-end, dans tous ces programmes, France Culture vous propose donc une réflexion tous azimuts sur les facettes et les enjeux de la toile Internet. Après le journal d'Anne-Laure Chouin, Alain Finkielkraut dans Réplique accueillera donc Cédric Biagini et Bruno Patineau pour évoquer cette révolution numérique. Prenez soin de vous.
Je pense que ce qui a changé fondamentalement au cours de la dernière décennie, c'est que les journalistes ont perdu le monopole de la parole. Et ça, ça change tout. Quand on parle d'Internet, moi je pense qu'il ne faut pas parler de révolution technologique. Le plus important dans Internet, ce n'est pas la technologie, c'est le fait que tout le monde prend la parole, qu'on soit journaliste ou qu'on ne soit pas journaliste.